Il est 7h.
Elle a pris du Plaquenil parce qu'il lui en restait d'une ancienne hospitalisation. On lui en avait prescrit beaucoup, beaucoup de patients. Comme ils ont du Plaquenil et qu'ils se disent qu'apparemment, peut-être, ça peut guérir, ils le prennent.
Le Plaquenil à consommer avec beaucoup de modération sur prescription médicale, surtout pas en automédication. C'est l'avertissement lancé par les autorités de santé. Les effets indésirables peuvent être graves et même mortels. En Guadeloupe, la justice donne raison au syndicat UGTG. L'État va devoir passer commande de tests de dépistage et de chloroquine. Nous appellerons son dirigeant, Elie Domota. Trop peur d'attraper le virus ou de donner du travail supplémentaire aux soignants, les Français se rendent nettement moins aux urgences.
Il y a de toute évidence des retards de prise en charge pour un certain nombre de patients qui ont peur de venir à l'hôpital ou qui, de manière très très citoyenne, ne veulent pas nous déranger.
Dans ce journal, l'arrivée des premiers bulletins de paie tenant compte du chômage partiel. Et puis, vous connaissez Zoom, c'est l'application qui a un succès fou en ce moment pour garder le contact à distance avec ses proches en visioconférence. Les seniors s'y mettent aussi.
On est très content de pouvoir utiliser ça, hein, parce que un petit clin d'œil de se voir, c'est sympa.
Votre invité à 7h40, Mathieu.
Le coronavirus et ses effets dramatiques en Espagne, la solidarité européenne aussi. Arantxa González-Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, est sur Europe 1 ce matin à 7h40. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Plaquenil, mais aussi Caletra. Les noms de ces médicaments vous sont sans doute devenus familiers, mais attention, ne les prenez pas sans avis médical. C'est l'appel lancé hier soir par l'Agence du médicament, très demandé en pharmacie pour lutter contre le coronavirus. Leurs effets secondaires peuvent être graves, ce qui inquiète les autorités. Mathieu Charrier.
Plusieurs enquêtes poussées sont en cours, mais une chose est sûre, les 4 patients admis en réanimation parce qu'ils ont pris du Plaquenil sans avis médical se multiplient. 30 malades qui ont développé des effets secondaires suspects sont même à l'étude, selon l'Agence du médicament. Et il y a même des investigations en cours sur 3 patients décédés, car le risque majeur lorsque l'on prend du Plaquenil, par exemple en automédication, c'est l'infarctus. Or, ce médicament, jusqu'à janvier dernier, pouvait être acheté sans ordonnance, notamment pour se protéger du paludisme. Il en reste donc dans les pharmacies des Français qui, pour certains, depuis les déclarations du professeur Raoult, en prennent d'eux-mêmes. Olivier est médecin régulateur au SAMU des Hauts-de-Seine. Hier encore, il a reçu cet appel.
C'est une patiente jeune qui appelait parce qu'elle était très angoissée, parce qu'elle pensait avoir le coronavirus et que depuis 24 heures, elle avait des palpitations, donc elle sentait son cœur battre. Et donc elle me raconte qu'entre autres, elle a pris du Plaquenil parce qu'il lui en restait d'une ancienne hospitalisation, on lui en avait prescrit. Et comme elle avait entendu dans les médias que peut-être ça pouvait être un traitement, bah elle en a pris d'elle-même. Beaucoup, beaucoup de patients, comme ils ont du Plaquenil et qu'ils se disent qu'apparemment peut-être ça peut guérir, ils le prennent.
D'où ce rappel des autorités de santé. Les effets de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19 ne sont toujours pas prouvés. Des tests sont en cours et sa prescription reste donc réservée aux cas les plus graves et dans un cadre hospitalier.
Le Plaquenil, c'est donc le fameux médicament qui contient de la chloroquine. La Guadeloupe va justement en recevoir sur l'île qui compte peu de lits de réanimation. Une centaine de cas ont été répertoriés pour l'instant, 5 décès. L'État va devoir commander des tests de dépistage et des doses de traitement. C'est une décision de justice qui vient de donner raison au syndicat local UGTG.
Bonjour Elie Domota.
Bonjour.
En direct de Guadeloupe ce matin, vous êtes à la tête de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. La justice, dans sa décision, reconnaît des carences du système de santé sur place, chez vous, en Guadeloupe. Quelle est la situation? Décrivez-la, s'il vous plaît. Quelles sont les conditions sanitaires aujourd'hui en Guadeloupe dans cette crise du coronavirus?
Vous savez, depuis novembre 2017, il y a eu un incendie au CHU. Et donc, nous sommes dans une situation sanitaire dégradée, marquée par une situation financière catastrophique, par un manque d'effectifs. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, le CHU n'est pas en mesure de faire face à cette pandémie. Et pour nous, aujourd'hui, vu l'urgence sanitaire, vu la dégradation des services de santé en Guadeloupe, vu l'état de santé général de la population guadeloupéenne, il est normal d'anticiper. Et pour nous, la décision du tribunal, c'est avant tout une anticipation, un bon sens pour tenir compte de la réalité.
Dépistage, chloroquine, peut-être d'autres matériels, mais après, Elie Domota, est-ce que le problème est plus large? Est-ce que, je vous pose clairement la question, est-ce que l'outre-mer a été oublié par l'État français face au coronavirus?
Vous savez, quand on regarde, je crois que ce n'est pas simplement l'outre-mer qui a été oublié. Le gouvernement a carrément n'est pas dans l'anticipation, n'est pas dans la prévention. Et quand le président de la République, monsieur Macron, parle d'envoyer un navire de guerre dans nos eaux, il oublie simplement que c'est un archipel d'îles et qu'il y a des milliers de kilomètres à parcourir et qu'en aucun cas ce bâtiment de guerre ne pourra apporter aucune aide, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, car il ne pourra pas être présent dans nos eaux.
Merci beaucoup, Élie de Motta. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, ce soir pour vous, en l'occurrence en Guadeloupe. Secrétaire général de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. J'insiste, ces questions de territoire aussi et de répartition de l'effort national. Nous les poserons à Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, qui sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin, et puis qui échangera avec vous, alors Corse ou pas Corse, vous n'hésitez pas, vous composez le 3921, vous écrivez sur le hashtag Radio Ouverte, puisque ces questions, elles peuvent concerner aussi d'autres territoires. Vous serez en direct avec nous, vous échangerez avec Jean-Guy Talamoni.
Et puis un mot pour dire que 3 internationaux français de foot, tous originaires de Guadeloupe, Kingsley Coman, Thomas Lemar et Anthony Martial, annoncent qu'ils vont faire un don au CHU de Guadeloupe pour lutter contre le coronavirus.
Plus de 3000 décès à l'hôpital, 418 ces dernières 24 heures. C'est la plus forte hausse jusqu'ici, plus de 5000 malades en réanimation. Voilà pour les chiffres annoncés hier soir. On parle beaucoup des hôpitaux saturés, mais dans le même temps, les admissions aux urgences hors Covid-19 sont en chute libre, moins 53% en moyenne.
Et oui, il y a l'effet confinement, moins d'accidents de la route, moins d'infarctus, mais pas seulement. Les malades ont peur d'aller aux urgences et se font parfois soigner trop tard. Le professeur Patrick Goldstein est chef des urgences et du SAMU de Lille.
Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a des patients qui devraient venir aux urgences ou qui devraient appeler le 15. Il y a une diminution du nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Il est difficile actuellement de comprendre exactement les raisons de cette baisse d'accidents vasculaires cérébraux. Peut-être que des patients restent chez eux, chez des patients à facteurs de risque coronariens, des syndromes coronariens aigus, voire de véritables infarctus qui font appel à nos services 48 heures après la première crise douloureuse, c'est-à-dire au-delà de toute possibilité de reperfusion. On a vu des jeunes gens arriver avec des péritonites alors qu'au départ c'était des appendicites. Il y a de toute évidence des retards de prise en charge pour un certain nombre de patients qui ont peur de venir à l'hôpital ou qui, de manière très très citoyenne, ne veulent pas nous déranger. Mais il y a de vraies urgences. Les services d'urgence continuent à fonctionner. Les SAMU fonctionnent pour autre chose que le Covid-19. Et dès que l'on a des antécédents ou qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de grave, il faut immédiatement appeler.
Voilà, conseil donné par le professeur Goldstein, joint par Mathieu Bock. Emmanuel Macron est attendu ce matin dans la périphérie d'Angers. Le chef de l'État va visiter l'usine de masques de la PME Colmy Open à Saint-Barthélemy d'Anjou. C'est le plus important des 4 producteurs français. Le site fonctionne désormais 24 heures sur 24. Il faut dire que les besoins sont énormes. 40 millions de masques par semaine pour le personnel soignant. Un quart des 10 000 marchés alimentaires de France rouvrent cette semaine, sous conditions sanitaires strictes évidemment. La grande majorité dans de petites communes avec moins de 10 commerces, mais aussi à Lille, Rennes, Clermont-Ferrand ou Grenoble. Aucune dérogation en revanche pour Paris.
7h08 sur Europe 1, plus de 500 000 entreprises de moins de 50 salariés ont demandé à bénéficier d'un report de charges sociales en mars. Des entreprises en difficulté qui ont souvent recours au chômage partiel. Mais ça veut dire quoi sur une fiche de paye ?
Oui, si par exemple on travaille dans un restaurant, chez un coiffeur ou dans un magasin de vêtements, des commerces qui ont dû fermer depuis la mi-mars, les premiers bulletins arrivent donc ces jours-ci, Olivier Samin.
Deux lignes nouvelles sur le bulletin et un net à payer tout en bas, moins élevé qu'au mois de février. Voilà ce que commencent à découvrir les salariés mis en chômage partiel dès la mi-mars. Les deux lignes, c'est d'abord en haut du bulletin, juste en dessous du salaire brut, le montant qui est soustrait au titre de l'absence pour chômage partiel. Et puis, deuxième ligne, un peu plus bas, l'indemnité d'activité partielle qui, elle, est ajoutée. Indemnité égale à 84% du salaire net et même à 100% si vous êtes au SMIC. Qu'est-ce que ça donne tout en bas, à la ligne nette à payer avant prélèvement à la source ? Eh bien, on va prendre l'exemple de deux salariés d'une même entreprise. Un commerce, par exemple, qui a été contraint de baisser le rideau le 16 mars. Les deux salariés ont travaillé normalement la première moitié du mois et ils n'ont pas travaillé du tout la deuxième moitié. Le premier, payé au SMIC, va voir son salaire net diminuer de 44 euros. Le deuxième, payé 2 000 euros brut par mois, subira, lui, une perte de 148 euros.
Voilà pour les salariés. Si c'est votre cas, d'ailleurs, vos témoignages, vos questions au 39-21. Notez bien que pour les TPE et les indépendants qui ont besoin de faire valider une perte d'activité, vous allez avoir quelques conseils très pratiques d'Anis Mbida après ce journal.
Et puis depuis hier, les particuliers employeurs peuvent utiliser le chômage partiel pour leurs salariés à domicile. La France est le seul pays confiné au monde à mettre en place cette mesure de soutien à l'ensemble de ses salariés.
L'aéroport d'Orly ferme ses portes tout à l'heure à minuit pour une durée indéterminée. Augustin de Romanet, le patron d'ADP, était mon invité à 6h40. Il chiffre les pertes à 1 milliard d'euros depuis le début de la crise.
Fini les travaux parlementaires. En revanche, les questions au gouvernement sont maintenues. Elles vont se tenir cet après-midi à l'Assemblée avec seulement 9 députés dans l'hémicycle, un par groupe parlementaire.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
On sait, on le sait, vous nous l'avez déjà raconté, on sait qu'Emmanuel Macron pense déjà à l'après-coronavirus. À droite aussi, on fourbit ses armes pour la sortie de crise, à condition toutefois que le président ne vienne pas proposer l'union nationale à la classe politique. Pour quelle raison ?
Parce que tout simplement, elle ne saurait pas quoi répondre. Hein. Ce serait un vrai dilemme, m'a confié un élu influent de droite qui m'a expliqué que la question avait été au menu d'un déjeuner au sommet il y a quelques jours. Officiellement, l'opposition de droite a mis ses critiques en veilleuse depuis le début de la crise, mais attend impatiemment la fin du confinement pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie par le gouvernement. Si Emmanuel Macron proposait l'Union nationale, eh bien ce serait impossible de lui refuser et de ne pas participer au redressement du pays. D'autant que l'on considère à droite que le chef de l'État est seul, que son gouvernement sera épuisé après l'épidémie et qu'il faudra renouveler les équipes. Dans ce cas, il sera difficile de lancer une candidature face à Emmanuel Macron en 2022 pour l'élection présidentielle. L'Union nationale serait donc un piège pour la droite. On le voit, malgré la crise sanitaire, la politique continue.
C'était le fait politique du jour avec Mickaël Darmon.
Aux États-Unis, pays qui compte le plus grand nombre de cas confirmés, l'épidémie s'accélère dans la région de New York, mais aussi en Louisiane, en Floride, dans l'Illinois et dans le New Jersey.
Et désormais à New York, tout le sommet de l'Empire State Building est éclairé en rouge avec une lumière qui tourne comme un gyrophare en hommage aux soignants. Donald Trump a discuté hier avec Vladimir Poutine de la pandémie, mais surtout de la dégringolade des prix du pétrole au plus bas depuis 2002. Ils se sont mis d'accord sur l'importance de la stabilité dans le marché international de l'énergie.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Le prix du pétrole s'effondre, conséquence d'une planète économique à l'arrêt. C'est votre éclairage éco ce matin, au point qu'on ne sait même plus comment stocker la production.
Oui, car arrêter un puits de pétrole, c'est un peu plus compliqué que de fermer un robinet. Du coup, même si les prix s'effondrent faute de demande, les producteurs continuent de pomper. Et à moins de 20 dollars le baril, le prix actuel, certains producteurs perdent de l'argent par rapport au coût d'extraction. Mais ils préfèrent vendre leur or noir à perte plutôt que d'arrêter des puits, parce que c'est une opération complexe sur le plan technique. Et surtout, ça coûte cher ensuite de redémarrer un puits qui a été arrêté. Du coup, que se passe-t-il ? On continue à pomper. Et comme la demande s'écroule, on stocke ce pétrole.
Mais on ne peut pas stocker indéfiniment, Nicolas.
Eh bien non, c'est tout le problème. Les capacités de stockage mondiales seront bientôt saturées. Et pour vous dire à quel point le monde marche sur la tête, on s'attend même à ce que certains producteurs, pour ne pas avoir à supporter le coût de l'arrêt d'un puits, payent des acheteurs pour qu'ils les débarrassent de leur surplus de pétrole. Le prix du baril deviendrait ainsi, en quelque sorte, négatif. Ce serait cadeau. En attendant, cette situation est dramatique pour bon nombre de producteurs. Un pays comme l'Algérie, par exemple, voit ses recettes pétrolières s'effondrer. La Russie et l'Arabie Saoudite subissent un plongeon de leur rentrée de devise et les États-Unis s'attendent à des faillites en chaîne des producteurs de pétrole de schiste. Cette crise est tout simplement inédite.
Et vous nous la racontez aussi le matin, Nicolas Barré, l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les jours dans le journal de 7h d'Europe 1. Si l'économie mondiale connaît un sérieux coup de frein, certains secteurs profitent de la crise, notamment ces outils de visioconférence.
Oui, jusqu'ici on les utilisait surtout pour le travail à distance, mais ils sont entrés dans notre quotidien pour les apéros, les anniversaires ou autres réunions de classe virtuelle. L'application Rennes, c'est Zoom. En 2 mois, la valeur de l'entreprise a doublé pour atteindre quasiment celle d'Uber. À tous les âges, tout le monde s'y met. Clément Le Saffre.
On est très content de pouvoir utiliser ça, hein, parce que un petit clin d'œil de se voir, c'est sympa.
C'est sur Zoom que j'ai discuté avec Marcel et Lucien, respectivement 82 et 84 ans. Ils ont utilisé l'application pour la première fois ce week-end pour un apéritif virtuel avec leurs amis du club de marche.
Chacun prenait l'apéritif chez soi. On a fait chin-chin avec nos verres et on s'est raconté un peu notre semaine.
Et maintenant que vous l'avez utilisé, vous avez envie de recommencer ?
Oui, les petits-enfants sont un peu dispersés. On va faire une réunion de famille, justement.
Et avec 2 millions de téléchargements par jour dans le monde, 10 fois plus qu'il y a un mois, Zoom connaît un succès fulgurant, notamment car il n'est pas nécessaire pour s'en servir d'avoir une excellente connexion Internet, explique Loïc Rousseau, directeur de Zoom France.
Notre technologie permet de ne pas être gourmand en bande passante. Donc si vous avez des amis dans une région un peu isolée et qui n'a pas énormément de réseau, va pouvoir facilement se connecter.
Mais attention, le succès de Zoom donne des idées aux hackers. Faux sites, fichiers malveillants, l'application est particulièrement ciblée depuis une semaine. Vérifiez donc bien que vous téléchargez la bonne intitulée zoom.us.
Et on se fait un zoom quand vous voulez, Mathieu.
Ben
ça
oui.
Fait un moment que je ne vous ai pas vu.
Maintenant, on ne se voit plus qu'en visioconférence et on a tous fait un saut technologique. On a appris plein de choses technologiquement pour pouvoir se parler et continuer à voir ses amis, bien sûr. Je suis sûr que c'est le cas de nombre de nos auditeurs, Hélène, et ils vont nous le dire au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Merci Hélène, un nouveau journal à 7h30 avec Jérôme Lacroix. Il est 7h15.